Bonjour. Bien, nous reprenons le cours de nos travaux avec une séance consacrée au sujet art et intégrisme. Et je vais donner la parole successivement à M. Benammar Médiène, professeur à l'Université d'Oran, professeur de sociologie et d'histoire de l'art, et à M. Denis Martinez, qui est actuellement professeur à l'École des arts d'Aix. Alors, M. Benammar Médiène, nous vous écoutons.
Merci. Oui, alors cette discussion va se dérouler en trois points. Je vais parler d'une manière très générale sur l'art en Algérie à travers un vaste panorama historique, mais très très schématique, seulement pour situer le problème. Dans un deuxième temps, je vais parler d'une alliance substantielle entre un peintre et un écrivain. Un écrivain connu, poète et homme de théâtre, qui s'appelle Katib Yassine, et un peintre qui s'appelle Mohamed Issiakem. À partir de ce deuxième point, si vous voulez, d'un texte que j'ai écrit sur cette alliance qui se matérialise à travers la composition d'une toile qui s'intitule « Femme sur poème ». Et dans un troisième temps, nous allons actualiser les discussions sur l'art et l'intégrisme aujourd'hui en Algérie, avec des témoignages et un point de vue de mon compatriote et ami Denis Martinez, qui est peintre et qui enseignait, comme moi, en Algérie, à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, et comme moi, exilé. Voilà, alors quand on parle d'intégrisme et de l'art, il faut situer historiquement et géographiquement, donc c'est l'Algérie. Et comment émerge l'art en Algérie? Bon, il émerge d'abord dans une situation de négation totale du fait de la colonisation. L'école des beaux-arts d'Alger, qui se constitue à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, n'admet pas les Algériens comme étudiants à l'École supérieure des beaux-arts. Il y a une section de formation pour les indigènes, donc on va tout simplement leur apprendre les rudiments du dessin et à recopier les motifs des tapis et des poteries, donc pour le grand bonheur de la bibliothèque et de l'industrie artisanale de l'Algérie. Alors, la naissance et le développement de l'art plastique, en particulier en Algérie, va se constituer encore très schématiquement en trois moments. Le premier moment commence au début du XXe siècle avec ce que j'appelle le passage de l'artisanat à l'art. Mais c'est un art quasiment clandestin. C'est un art qui vit à l'ombre de l'art du dominateur. Quelques peintres, grâce à des peintres qui, partant de France et s'installent à la Villa Abd al-Latif à Alger, qui a été créée en 1907 pour constituer un équivalent de la Villa Velasquez ou de la Villa Médicis à Rome, des pensionnaires viennent et évidemment ces pensionnaires sont libérés de l'idéologie coloniale dominante. Cette idéologie culturelle coloniale, elle s'appuie sur un élément très fort, c'est le désir de la colonisation, d'une partie de la colonisation française, de latiniser l'Afrique du Nord et l'Algérie en particulier. Louis Bertrand, donc l'intellectuel de l'époque, fait des discours et écrit des textes d'une limpidité extraordinaire en disant bon, les Latins ont vécu ici, Rome a vécu ici, il faut latiniser, donc il faut christianiser, latiniser l'Algérie, et ceux qui ne s'intègrent pas à ce processus par les lois du darwinisme culturel sont appelés tout simplement à disparaître. Et se constitue à cadence forcée ce que l'on va appeler l'école d'Alger. l'école d'Alger, donc, où se retrouvent philosophes, écrivains, peintres, qui constituent donc cette espèce de superstructure culturelle et idéologique qui espère en conduire l'Algérie à la latinité. Alors, ce processus est extrêmement grave parce que il va séparer la population algérienne autochtone de son passé historique. C'est-à-dire que tous les vestiges de la romanité, ces grandes villes romaines de l'Est algérien, du côté de Guelma, Lambèze, et du littoral de la Méditerranée, à Tipaza, Zeralda, Cherchel, constituent une archéologie vivante, pour ainsi dire, absolument extraordinaire. Et donc, ce que fait la colonisation, c'est de s'emparer de ce patrimoine pour conforter, évidemment, cette idéologie de la latinité ou de la latinisation en Algérie. Et donc, première rupture qui se constitue, elle est d'ordre historique, c'est la population algérienne est séparée de son histoire. Parallèlement, et chose encore plus grave, c'est parce que cette action va s'inscrire dans le présent, c'est de verrouiller la langue arabe et tous les modes d'expression liés à la langue arabe. Donc aussi bien l'enseignement que la littérature et tout le champ du symbolique dans lequel apparaissent les différentes visions qu'ont de même les Algériens de l'époque. Et là, l'arabe n'est plus enseigné, ou alors il est enseigné, mais de manière très enclavée. Et donc, il y a un appauvrissement très rapide de la langue arabe. Simultanément à cette mise sous le boisseau de la langue arabe, avec tout ce que cela comporte comme symbolique et comme modalité de reconnaissance de soi et de rapport à l'autre, il y a aussi un tracé qui va se creuser entre ce que ces idéologues appellent la population arabe et la population berbère, et entre la population berbère et arabe du nord et la population du sud. Et donc nous assistons à une espèce d'éclatement du milieu culturel et symbolique de l'Algérie, et qui crée cette rupture de l'être avec soi-même. Il y a cette espèce donc de vacance, cette espèce de vie en apesanteur de la population algérienne, complètement coupée à la fois de son histoire et de son présent également. Et ça, c'est une forme d'intégrisme extrêmement pernicieux, parce qu'il travaille dans le temps et il travaille également sous le couvert de l'universalité. Il travaille sous le couvert de la raison. Il travaille sous le couvert de la modernité. Et donc, cela atténue en apparence les effets dévastateurs de cette espèce de desservelage et cette espèce de déculturation qui est menée par la colonisation. Ça, il faut pas qu'on l'oublie, parce que si aujourd'hui il existe en art en Algérie, c'est un véritable miracle. C'est un véritable miracle parce que, et grâce justement à des peintres qui avaient une vision artistique justement de leur situation et de leur art, vont prendre en charge, de façon un peu clandestine, en marge, des Algériens et leur donner une formation. Alors il y a cette génération donc, que j'appelle la génération des fondateurs, et qui fait passer donc l'art de l'artisanat lié à la vie quotidienne, à la vie de l'usage des objets, à un travail qui permet l'amorce d'une autonomie de l'art. Et là, nous avons, donc, pas beaucoup, trois ou quatre artistes, parmi eux Mohamed Racine, qui possède en lui une puissance artistique considérable, mais qui va être constamment brimé. Racine veut faire de la toile, il veut faire de l'huile, il veut faire de la gouache, il veut faire de l'aquarelle, il veut faire de la gravure. On lui dit non, 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 il faut que tu fasses de la miniature et de l'enluminure. Parce que tu t'appelles probablement Mohamed Racim, et donc il faut que tu travailles là. Et donc il y a cette espèce de division du travail artistique en qui, d'une part, au niveau institutionnel, met les Algériens dans les classes indigènes, et sur le plan des démarches individuelles, donc aller situer à la marge de l'art apparent, de l'art des galeries, de l'art des musées, de l'art des livres, etc. Et donc à faire de la calligraphie, à faire de l'enluminure et à faire de la miniature. Alors, je vous donne un exemple frappant. En 1922, un peintre algérien qui s'appelle Ben Haffaf est invité par le gouvernement général d'Alger à assister à une exposition en France. On lui dit non, ben on t'emmène, mais tu ne feras pas de la peinture. Tu vas t'habiller avec ton burnous, on va te bâtir une tente, et puis tu feras de la boiserie, tu feras un peu de sculpture, un peu du travail sur bois, un peu de dinanderie, du travail sur cuivre, et puis comme ça les gens te verront. Alors, j'ai lu une lettre de Ben Haffaf, il s'est senti humilié, mais d'une manière absolument extraordinaire, mais il a quand même participé à cette exposition, et on a vu cet homme à Lyon, ça se passait à Lyon, donc installé sous sa tente, en train de graver, de sculpter, alors qu'il travaillait qui voulait travailler, lui, sur la toile, sur les autres supports artistiques. Ça, c'est un exemple. L'exemple de Racim est aussi fort, puisque les travaux de Racim sont d'une qualité esthétique absolument extraordinaire, mais cet homme ne réussira jamais à obtenir cette reconnaissance du statut d'artiste. Il est recruté, il est né en 1896, il est recruté en qualité de professeur de dessin, mais évidemment à la section indigène. En 1934, il obtient le premier grand prix d'Algérie, qui était un prix au niveau de la France et de ses colonies important. Eh bien, malgré ce prix et malgré le désir de Racim d'enseigner la peinture, il restera jusqu'à l'indépendance, jusqu'à sa retraite, comme professeur de dessin à la section indigène des Beaux-Arts. Alors, tout cela marque profondément à la fois la conscience et l'inconscient de cet art. À la fois en désir d'expansion, mais constamment réprimé, constamment retenu, constamment dévié vers des formes d'expression qui ne sont que les formes d'expression qui prouvent à l'autre qu'il a réussi sa mission civilisatrice. Je vous présente Racim. Voilà, Racim fait de la belle miniature. Je vous présente Ben Haffaf, il fait de la belle dinanderie. Et on retrouve ces éléments dans le feuilleté historique de l'Algérie contemporaine, avec des attitudes paternalistes, mais qui sont fondamentalement racistes. Elles sont fondamentalement racistes. C'est une négation absolue de la capacité à l'artiste de pouvoir s'exprimer parce qu'il appartient à une race qui n'est pas latine, à une histoire qui n'est pas celle de l'Occident. Et ça, cette histoire est mal connue, elle reste une page blanche, bon, sinon quelques travaux que je mène pour essayer de faire remonter à la surface du regard tous ces personnages qui ont... qui constituent des moments où la subjectivité de l'Algérie et des Algériens est visualisable, visualisée dans des toiles, dans des tableaux. Et c'est maintenant que l'on retrouve chez des familles des toiles qui datent de 1910, 1917, 1920, 1930. Et j'ai essayé avant de partir, de reconstituer toute l'iconographie, puis d'en faire un, un répertoire raisonné et à commencer un travail à la fois biographique, c'est-à-dire à connaître ces personnages, et un travail en deuxième temps d'analyse, même sommaire, de cette production. Donc, les artistes algériens qui vont pouvoir s'exprimer seront contraints à s'expatrier. Ils s'expatrient en France. Alors, paradoxe, me direz-vous, puisque l'Algérie est française. Oui, l'Algérie est française, mais pas les Algériens. Les Algériens autochtones sont considérés comme des sujets français. Ils ne sont pas citoyens français. Il y a évidemment trois départements. Il y a la départementalisation, il y a un État, etc., etc. Mais mon père n'était pas citoyen français, il était sujet français. Mais dès le moment où on arrive en France, on nous appliquait le droit français, c'est-à-dire qu'on devenait citoyen et on vivait cette espèce, enfin les gens en fait, vivaient cette espèce de schizophrénie géographique et historique. Là, je suis français, là-bas, je ne suis pas français. Je ne sais pas ce que je suis. Je suis sujet français, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça nous renvoie à l'ancien régime du statut du sujet? Ou est-ce que je suis dans une modernité? Je suis dans une modernité, mais dans une modernité au ras du sol. C'est la modernité, c'est l'autre qui va me faire accéder selon son rythme, le rythme qu'il veut à cette modernité. Et donc les Algériens vont, à partir de la Première Guerre mondiale, vont s'expatrier, ils vont venir en France, et l'un des plus reconnus d'entre eux, il s'installe au Maroc, il s'appelle Azouaou Mamri, et c'est un peintre absolument extraordinaire. Là, j'ai retrouvé une iconographie extrêmement importante dans des catalogues et dans des reproductions imprimées dans des livres édités en 1918, 1920, 1922. Et donc, on arrive à reconstituer par bribes, hein, par morceaux, cette histoire de cachée, cette histoire de l'Algérie, cette histoire de la beauté, cette histoire de l'art. Et là, on est en manque. On est en manque. Il y a comme quelque chose qui est absent, quelque chose qui a disparu, mais qui existe. Et donc, il faut exhumer. Et malheureusement, au moment où les choses commençaient à s'exhumer, un intégrisme barbare, celui-là, parce qu'il est physique, succède à l'autre. Celui-là est physique parce que c'est la négation absolue, pas seulement de l'art, mais de celui qui le porte et de celui qui l'exprime. Donc on tue l'homme et l'idée de l'homme en même temps et l'idée de l'art. Alors dans ce cheminement saccadé mais passionnant, parce que c'est ce qui me permet d'espérer, c'est que dans les moments les plus sombres, il y a ce jaillissement de la chose belle et donnée en échange. Et à travers cette histoire de l'art en Algérie, je crois qu'il est possible d'espérer. Parce que il n'y a jamais d'abdication totale, il n'y a jamais d'effondrement total, tant qu'il reste. Même dans les peurs les plus atroces, même dans les moments de désarticulation de tout, il y a cette espèce de recomposition de l'être à travers les différentes formes d'expression que sont la littérature, la peinture, la musique. Mais tout ça, c'est à faire. Voilà, mais nous sommes dans un temps coupé, dans un temps rompu, dans une espèce d'interruption historique où tout est suspendu et où seule la férocité semble dominer la vie. Et dans cette situation donc obscure, et qui prépare le désastre obscur, ce que les psychiatres appellent la folie. Il y a l'art, et il y a deux artistes que je vais vous présenter. Voilà, pardon. Là, je vais vous lire. Alors, Femme sur poème, c'est donc le titre du, c'est le titre du tableau. Femme sur poème me servira d'incipit à ce texte. Femme sur poème est un tableau créé dans l'Alliance en acte par Issiakem, peintre, et Katibiasin, écrivain. Une alliance qui leur survit dans cette toile, ailleurs et partout. Pas seulement d'incipit à la narration d'une histoire qui serait enroulée dans la toile, mais pour dire une histoire absente qui se passe ailleurs et qui n'énonce pas sa propre fin, même si la vie de Katibiasin s'est achevée le 28 octobre 1989 et qu'il a rejoint dans l'absence absolue son ami le Manchot. Issiakem, le peintre, était un Manchot. Son ami le Manchot, œil de lynx et gosier d'océan, qui lui est mort le 1er décembre 1985. Ce tableau est une image de l'étendue et de la densité au seuil de laquelle l'imaginaire est provoqué, libéré. Ce tableau est particulier. Il est d'une double filiation par ses auteurs et d'une double forme d'expression artistique que sont la peinture et l'écriture poétique, ici rencontrées et instaurant une unité de vision esthétique. Un univers tout entier, dirait Maurice Blanchot. Je suis dans la proximité visuelle, et vous aussi, avec le contenu artistique de l'œuvre, à l'écoute de son éloquence muette. Je suis dans la proximité imaginaire avec Issiakem et Kateb qui l'ont créé, et avec l'Algérie qui a hanté la vie et la création de l'un et de l'autre. Récits de deux vies et des liens qui les ont unis dans l'art et en pointillé, des pulsations de l'Algérie qui n'en finit pas de sortir de l'enfer. Ce tableau sera espace à déconstruire, une entrée pour un voyage dans la vue et dans la mémoire. Dès lors, le temps peut s'ouvrir, s'inverser, circuler derrière les apparences, des figures, des couleurs et des calligraphies. Ce que je veux dire, c'est que cette toile est à la fois le produit artistique conjugué de ses auteurs et pleine de leur présence. Une présence gemellaire. Le peintre Issiakem et le poète Kateb sont restés toute leur vie à hauteur et à l'écoute de l'humain en évitant deux grandes tentations auxquelles peu d'artistes savent y résister. Celle du culte de soi-même, qui falsifie ou annule le devoir de solidarité et de l'échange. Celle du conformisme et du mémétisme, qui font obstacle au principe d'originalité créatrice proclamé, assumer et projeter. Ils n'ont jamais porté le masque de la bonne ou de la mauvaise conscience avec lequel beaucoup de peintres et d'écrivains se créent un conformisme de la liberté qui n'est qu'une manière de dissimuler un conformisme soumis à la morale dominante. La vie de Katibiasin et de Mohamed Issiakem, vie d'artiste au sens fort du terme, ont valeur exemplaire et marque de leur singularité l'histoire contemporaine de l'Algérie. Prise dans les mailles de l'histoire, de ces deux existences, on porte les traces dans leurs corps et leurs imaginaires. Elles s'en libèrent et jaillissent dans la toile ou dans le champ poétique. Quand je dis « ils portent les traces fortes dans leurs existences », je m'explique. Issiakem est peintre dès la naissance, pardon pour cette affirmation péremptoire. Mais dès la naissance ou dès l'âge adolescent, il vit une douleur atroce. Pourquoi il est manchot ? Le 27 juillet 1943, les Américains sont en Algérie. Ils occupent une petite ville de l'ouest algérien qui s'appelle Relizane. Et Issiakem a 13 ans. Avec des copains, ils volent de l'armurerie d'une caserne américaine une caisse de grenades. Ishiakem prend une grenade et va la cacher chez lui sur la terrasse. Le lendemain matin, la terrasse est pleine d'enfants, ses sœurs, ses neveux. Et il dégoupille la grenade, elle explose, deux de ses petites sœurs meurent, son neveu meurt et lui a le bras arraché. Alors c'est cette douleur qui ne cessera jamais parce qu'elle est liée à une image que l'on peut ni refouler, ni dompter, avec laquelle il n'est pas possible de mener une coexistence pacifique. Et donc, constamment, comme une obsession, Ishiakem va peindre cette scène. Il va peindre cette scène. Et évidemment, la guerre d'Algérie va amplifier le drame par la multitude des morts, de la torture et des souffrances. Katib Yassin, le 8 mai 1945, c'est le jour de l'armistice, c'est le jour de la libération de l'Europe. Il y a une manifestation dans le sud, dans l'est algérien, à Constantine, Guelma, Sétif. Kateb est collégien, il sort, il participe à la manifestation, il est arrêté. Il y a 45 000 morts en quelques jours à Sétif et à Guelma. La mère de Kateb, qui ne voit pas son fils rentrer, est devant tant de cadavres, tant de bruit, tant de fumée, elle perd la raison. Et elle ne retrouvera jamais la parole ni le rapport conscient à son fils. Et ce sont ces deux drames d'une violence extrême qui vont constituer à la fois la force de la création, mais qu'il faut constamment renouveler, qu'il faut constamment renouveler. Et ils vont se rencontrer et devenir des amis turbulents. Si Kateb appelait Ishiakem gosier d'océan, ce n'est pas une simple image, parce que c'était un adepte de tout, finalement, de tous les alcools. Destin d'artiste, noué ou affirmé dès l'adolescence, dans les drames de la mort, de la souffrance, de la folie et des errances. Drame fort comme une antique fatalité, mais face à laquelle ni Ishiakem ni Kateb ne succombent, ni n'abdiquent, contre laquelle ils opposent, pour ne pas sombrer dans l'aphasie ou se désintégrer dans le vide attractif, la force de leur création et celle de leur colère. La mort d'un artiste est toujours une irréparable et insupportable tragédie. En créant des beautés transportées par le mot, le son, l'image, il délivre le pluriel du sens et les désirs du beau que d'anciennes ou nouvelles orthodoxies répriment, tolèrent ou détournent selon leurs dogmes. L'artiste est celui vers lequel le regard se tourne et s'arrête pour tenter de déchiffrer sa parole, ses obsessions et ses désirs, ceux de son temps et les nôtres. Mais l'œuvre d'art n'est pas seulement un sujet qui se donne à voir dans la sensation psychologique. Elle est toujours en expansion, en puissance d'attraction de l'œil qui se laisse conduire à travers un jeu d'images, du foisonnement oculaire immédiat, vers l'insaisissable, vers l'infini, vers l'inconnu, vers les origines, vers soi-même. Je regarde, femme sur poème, dans ma condition existentielle algérienne d'aujourd'hui, avec ce sentiment hybride de permanence et de fugacité, avec la peur archaïque des effondrements barbares et l'orgueil de pouvoir encore parler de mes amis Kateb et Ishiakem. Une Algérie où la culture est écrasée par le petit commerce de l'esprit, par les grands proxénètes de la pensée unique, par une cléricature armée, hirsute et illuminée par l'instinct de mutiler le corps et la parole. Une Algérie où Kateb et Ishiakem, à l'inverse, symbolise au plus fort le droit et le devoir à la révolte, à la colère, à l'amour, à la liberté, à la beauté des choses et des êtres, à l'orgueil. Je veux parler de mes amis Kateb et Ishiakem, de poésie et de peinture, à partir de ce site qu'est Femme sur poème, parler pour échapper au cauchemar qui m'envahit même en état de veille. Je vois l'espace du tableau s'ouvrir en une obscure béance, les figures se décomposer et les couleurs s'altérer. Désordre spéculaire, vision surréaliste, j'ai l'impression de plonger dans l'inconscient primitif de l'Algérie, d'être noyé dans le magma brûlant de ses pulsions. Je vois derrière les sujets de la toile l'indescriptible fatalité dans laquelle s'engloutissent mon pays et ses gens. L'Algérie que j'ai quittée dans l'arrachement et la peur, avec forme sur poème comme unique bagage, porteur de présence et de lien avec le territoire de ma naissance. L'Algérie que j'ai quittée alors que mon copain Aloula agonisait. Aloula est un dramaturge, homme de théâtre, metteur en scène, comédien, très connu dans tout le monde arabe, qui avait mon âge, qui était mon copain, et qui a été tué le 12 mars dernier. Alors que mon copain Aloula agonisait, mourait de deux balles que deux jeunes hommes lui ont tirées dans la tête. Aloula, le généreux, le théâtre, est mort, effondré sur un trottoir de la ville d'Oran. Après Ahmed Asla, c'est le directeur de l'école des Beaux-Arts, qui a été tué avec son fils, étudiant à l'école des Beaux-Arts, le 4 mars dernier, qui était mon ami, qui était l'ami de Bni. Après Youssef Septi, le poète fragile, qui était égorgé. Après Mahfoud Boussebsi, le psychiatre écrivain, écorché à coups de couteau. Après Tal Jaout, mon copain, l'écrivain, qui était tué. Après beaucoup. Aloula est mort après trop d'amis assassinés, avant d'autres amis assassinés, avant Aïcha Djellit, une femme décapitée. Aïcha est égorgée 5 mois après son frère Bachir lui-même abattu au seuil de sa maison. Comment supporter cet état de sidération collective et de ne jamais en finir avec les deuils? Comment vivre cette terreur qui redouble par les formes même avec, qui redouble par les formes avec lesquelles elle s'exerce? Comment ne plus être dans la terreur de la terreur qui vous oblige à raisonner dans l'irrationnel, à choisir dans la barbarie l'acte le moins barbare? Mourir d'une balle expéditive pour ne pas être égorgé. Et si l'on est égorgé, ne pas l'être auprès des siens. Voilà les choix qui nous étaient donnés. Le travail du deuil ne s'achève pas quand l'absurde et la terreur dominent et épaississent de haine l'atmosphère, quand il est constamment reporté dans le nom de chaque nouveau supplicié. Et cet autre deuil, ce deuil d'atmosphère qui ne se consume jamais avec ces moments de tension ou de dépression, ce deuil de la perte du lieu, de l'énigme du lieu natal, de ne plus être chez soi, de vivre à crédit, dans la précarité de tout, d'en payer le prix avec cette étrange et douloureuse sanction que l'on appelle la culpabilité. Cette culpabilité qui n'a pas de nom, ni d'objet précis, qui n'a pas de sens compréhensible et qui assèche du dedans du corps tous les désirs. Coupable d'avoir peur et de haïr la haine qui l'a fait remonter et qui fait sombrer une part de son humanité. Et surtout coupable de l'impuissance à ne pas comprendre. Et coupable de partir aussi. Être contraint d'abandonner son paysage, son être chez soi, c'est comme vivre hors de son corps, avec quelque chose qui s'est anéanti, mais dont on garde la lancinante sensation de la mutilation. Mon compatriote et ami, le peintre Denis Martinez, qui a été obligé de s'arracher de l'atelier de sa maison à Blida, n'arrête pas de penser au mur contre lequel il a adossé ses châssis et sur lequel il accrochait ses croquis et ses œuvres. Mon mur me manque, c'est lui qui parle. Il ne remplissait pas seulement une fonction de séparation ou de support dans l'espace de l'atelier, il était le mur des jeux de lumière, d'ombre et des heures, comme un cadran solaire, et aussi comme un deuxième fond de la toile ou du papier. Il donnait les variations de temps à mes couleurs, de ton à mes couleurs. Il participait au mouvement de mes compositions, aux postures que je prenais face à la toile, aux différentes phases de mon travail. Ce mur compliquait mes problèmes, des lois de la relativité et de l'espace, des proportions et des valeurs, et paradoxalement, m'indiquait des solutions, des innovations. C'était un mur rebelle, mais un mur parlant. Il me fallait son accord, comme en musique, pour que je considère ma peinture achevée. C'était peut-être une relation magique. Ce mur me manque, comme si j'y avais laissé l'essentiel de mon imaginaire. Aujourd'hui, dans tout autre espace, j'ai l'impression de perdre de mon acuité, d'être un peu daltonien et d'être en déséquilibre face à la toile. Nous avons laissé nos murs et leurs traces. Et leurs traces nous hantent, comme nous hante la peur de ne plus les retrouver et d'entendre le fracas de leurs effondrements, de ne plus reconnaître l'Algérie. Bon, j'arrête là.
Merci, Monsieur Médienne, pour ce témoignage qui est effectivement difficile de dire quelque chose après. Je passe la parole à Denis Martinez, que vous venez d'évoquer.
Bon, un peu difficile pour moi de prendre la parole après avoir été... C'est vrai. Bon, je suis là derrière un micro. Lui, il sait qui je suis, je sais qui il est. Mais je sais que vous ne savez pas. Et moi, il y a un truc que je me répète tout le temps, c'est que bon, je ne suis pas là. Ni même là. Ni même encore là. C'est-à-dire que je ne sais plus ce que je suis, qui je suis, pourquoi, etc. Et je dois dire des choses. Bon, si on doit parler un peu de choses vécues par rapport à la montée de l'intégrisme en Algérie et surtout des choses vécues en tant qu'artiste, bon, pour moi, il y a eu plusieurs intégrismes en Algérie. Et bon, chaque intégrisme a enfanté l'autre. Il y a eu, bon, cet intégrisme, si on veut bien l'appeler comme ça, pendant la colonisation, qui a laissé des traces dans les mentalités, c'est-à-dire cette espèce d'école où on a voulu confiner l'art algérien à travers la miniature et autre chose. Ce qui a supporté, ce qui a encadré la miniature, c'est la vision orientaliste dans le domaine de la peinture, hein, qui a encouragé la miniature. Bon, ce sont deux éléments très importants qui vont marquer visuellement la mentalité de l'élite algérienne qui, au lendemain de l'indépendance, va prendre le pouvoir au niveau de la culture. Et quand il s'agissait de redémarrer l'enseignement de l'art en Algérie, bien entendu que l'Algérie avait hérité d'une école qui, à l'époque, faisait passer, comme l'a dit Ben Ammar, c'est-à-dire toute la tradition gréco-romaine comme base de formation académique, mais au niveau du dessin, etc., plus à côté cette espèce d'art indigène, et en même temps au niveau de la peinture, bon, la vision répétée et en sous-produit même de l'orientalisme. Le ministère de l'Information et de la Culture à l'époque avait déjà lancé d'emblée sa vision, c'est que n'était peinture algérienne, on dit bien, ça dépend de nationalité algérienne, que ce qui ressemblait à une miniature ou à une peinture orientaliste. Ça, c'était déjà dans les mentalités. C'est-à-dire qu'il y a un poison qui était resté là. Bon, l'Algérie voulaient, bon, ces gens-là voulaient donc mettre en place une personnalité dans l'art pictural de cette manière-là. Mais à côté, à partir du moment où il y avait révolution, dite socialiste, il y avait l'autre aspect qui venait se greffer, c'est-à-dire qu'il disait, bon, révolution socialiste, il y avait la vision réaliste socialiste ramenée de l'école de Moscou. Ce sont deux visions qui ont réussi à se côtoyer, à partir du moment où elles étaient guidées quand même par un académisme très fort. Alors, ce qui fait que toute image qui pouvait aller vers l'abstraction ou autre était considérée comme un sous-produit, un suppôt de l'occidentalisme, etc., etc. C'est-à-dire, regardez la contradiction, la peinture orientaliste n'était plus considérée comme une peinture occidentale. Hein? Parce qu'elle représentait des scènes typiques, etc., etc., la miniature pareille. Hein? La peinture réaliste socialiste, c'était la révolution pour le peuple, enfin, où on flattait le militant, etc., etc. Donc tout le reste, tout ce qui sortait de là, était poison colonial, rejeté idéologiquement. Alors à ce moment-là, la direction de l'école des Beaux-Arts, sous la directive du ministère de la Culture, a voulu imposer cette vision, a voulu mettre en place, obliger les enseignants à travailler dans cette direction, et en même temps, dans les structures qui dépendaient du parti unique, il était presque obligé de présenter un travail dans ce sens, que ce soit sous-produit, même bâtardisé de l'orientalisme, de la soi-disant enfin la miniature et aussi enluminure, et art dit révolutionnaire. Et ça, ils arrivaient même à imbriquer ces formes, à les mêler. Alors, toute personne s'opposant à ça était considérée comme l'ennemi du peuple, ennemi de la révolution, banni de toute. Il est arrivé même à une certaine époque où les gens qui agissaient ouvertement contre ça étaient même interdits d'exposition dans les lieux, les seuls lieux qui existaient et qui dépendaient des structures du parti unique. Bon, ça a mis du temps. Hein. Une des grandes actions, enfin, qui ont été le pouvoir vite réagit, c'est la naissance d'un groupe qui s'est constitué pour pouvoir prouver autre chose. C'est la naissance du groupe Auchem, qui a voulu dire, bon, vous voulez parler d'algérianité à travers tout ça, nous on revendique l'algérianité à travers autre chose, c'est-à-dire qu'il existe. Il existe d'autres écoles dans l'art populaire qui a des bases tout à fait géométriques et abstraites, etc., et qui pouvaient donner naissance à, disons, une autre réflexion, une autre vision sur l'art algérien. Donc le groupe Auchem qui veut dire tatouage, a revendiqué l'observation de l'art populaire, de l'expression graphique dans l'art populaire. Et quand je dis art populaire, j'ai dit la dominante qui est rurale et non pas citadin. Parce que cet art indigène dont parle mon ami Ben Ammar, qui a été enseigné dans les écoles, c'est un art indigène à la fois d'origine ottomane et andalouse, qui a été plus ou moins encouragé, hein, parce que c'était une élite très minoritaire, avec le système des arabesques, etc. Alors que l'art populaire berbère, lui, était complètement rejeté. Il y a les fins fonds du sud Touareg, etc., bon, que ce soit à l'extrême ouest ou est, etc. Donc, il ne s'agissait pas de reproduire ces choses-là, mais de comprendre et avec ça, opposer. Et nous avions, à la même époque, l'exemple de certains artistes marocains qui avaient déjà posé le problème, comme Feu Cherkaoui, etc., etc., et qui avaient déjà quand même posé des prémices dans ce domaine-là. Mais en même temps, ce que nous voulions par là, c'est revendiquer la liberté d'expression. ce n'était pas créer un autre dogmatisme quand même. C'est-à-dire, il y a, vous êtes comme ça, nous voulons être comme ça, mais en même temps, nous voulons ouvrir vers l'universalité, etc., etc. Bon, le groupe AOCHEM a été combattu, et même, il était interdit parfois, très souvent, d'en parler dans la presse, et même dans certains livres qui se voulaient à cette époque-là parler de la peinture algérienne. Interdit. Voilà. Bon, ça, c'était un intégrisme existant. Le problème de l'abstraction, vous vous rendez compte, parce qu'à quoi il limitait les choses, dès qu'on sortait du réalisme académique, tout le reste devenait abstraction, était donc rejeté, nié. Et ce même parti unique qui a tout doucement préparé la montée de l'islamisme en préparant la montée de l'islamisme dans les naissances à une autre vision qui condamne la figuration. Ce qui se passe actuellement, par exemple, c'est que chez les islamistes, la figuration est tout à fait interdite. Et maintenant, mais encore plus, c'est l'acte lui-même de peindre. Voilà. Alors, il s'est passé, dans mon expérience en tant qu'artiste et en même temps en tant qu'enseignant, avec la création de l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger dans les années 85, parce qu'auparavant nous étions école nationale, simplement, avec la venue de M. Ahmed Asla, qui est venu pour mettre en place cette école-là, et qui en même temps a encouragé toutes les initiatives possibles pour que cette école puisse avoir un impact en dehors de ses murs. Auparavant, les étudiants de l'école nationale pouvaient profiter d'une bourse à l'étranger, dans différents pays, selon les spécialités. Et bien entendu, c'était les majors de promo, comme on disait, qui allaient soit à Paris, en Italie, ou en Espagne. Bon, quand par hasard, pour la sculpture, on envoyait en Union soviétique, je ne sais pas pourquoi, pour les arts déco, on envoyait à Paris, pour la céramique, on envoyait en Espagne. Enfin, c'était bon, chaque pays avait sa spécialité, j'en sais rien. Bon, c'était une drôle de politique à l'époque. Et avec la naissance de l'école supérieure, il n'était plus question d'envoyer des étudiants à l'étranger, puisque le diplôme supérieur, ça devait se faire là. Et il y avait une espèce de frustration qui s'était établie dans le milieu étudiant, parce que même si nous avions la possibilité de mettre en place un bon travail, mais ce besoin d'ouverture et de vouloir exister, de voir ailleurs, était très important chez les jeunes. Donc il fallait à tout prix essayer de créer un climat à travers cette école pour que ces jeunes puissent se sentir bien chez eux, qu'ils puissent retrouver chez eux toutes les possibilités d'éclatement et d'évolution, etc., et qu'ils puissent en même temps comprendre, qu'ils puissent s'impliquer avec leur travail dans leur société. Ça, c'était très important. Donc il fallait mener des actions précises et faire travailler son imagination. Alors, pédagogiquement, il fallait faire vite. Et bon, c'était à ce moment-là, dans les années 86 comme ça, que j'ai commencé à essayer de sortir des groupes d'étudiants en dehors de l'école pour commencer à ce qu'ils s'impliquent publiquement dans des lieux. Je suis de Blida. J'ai eu à un moment donné une idée. Il y avait un quartier qui était en démolition, un vieil hôpital qui foutait le camp et qui était en train de... Enfin, cet hôpital touchait une autre rue, une rue pas fréquentable, hein, où se trouvaient ce qu'on appelle le quartier réservé de la ville, et où les gens n'allaient jamais. Bon, cette rue existe toujours, mais derrière cette rue-là où se trouve l'hôpital, voilà que maintenant, il n'y avait plus rien. Hein, c'était dans des lambeaux de murs, etc., etc. Et l'histoire voulait que c'était dans cet endroit-là que les premières maisons de la ville ont été bâties, vers les 1800... Après le séisme, le premier séisme, après la conquête française, parce qu'il y a eu plusieurs séismes. Donc, j'ai eu cette idée de demander à la ville de faire intervenir un groupe d'étudiants sur ces murs-là, qui allaient encore être détruits, pour leur donner encore la parole. Alors, c'était des murs très hauts, très lent. Il y avait du béton, des ferratés qui sortaient de partout. Bon, c'était complètement délabré. Il y avait des rats, des égouts, etc. Et il fallait que les étudiants s'expriment là-dessus, sans aucun préalable, librement, face au public qui allait passer par là. C'est une action qui a duré une semaine, avec des moyens de bord. C'était terrible. Les gens croyaient qu'il y avait une fête foraine qui s'installait là. Parce qu'il n'y avait pas une tente, etc. Il y avait des lumières. Et les gens ont commencé à venir. Qui n'osaient pas fréquenter cet endroit, ils ont commencé à venir. Les gens discutaient avec les étudiants. Les étudiants étaient obligés de parler de leur travail, du pourquoi de leur travail. Et ce public qui ne connaissait absolument rien de la peinture, parce qu'attention, la peinture est une tradition qui n'est pas encore bien incrustée dans le public. Il y a des minorités, mais pas, ce n'est pas encore dans les mentalités. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. Un dialogue, un débat, les gens ont commencé à voir des choses se faire. Ces murs qui étaient destinés à être détruits, ils ne comprenaient pas pourquoi on mettait quelque chose là-dessus. Pourquoi vous faites ça, puisque ça va être détruit? Alors on dit, mais c'est qu'on leur donne la parole avant qu'ils meurent. C'est-à-dire, le thème général, c'était les dernières paroles d'un mur. Bon, à ce moment-là, un individu est arrivé, qui était quelqu'un de la ville très connu au niveau de la jeunesse, qui avait beaucoup activé dans le milieu de la jeunesse, et qui s'appelait Amir Abdelrahman, est venu me voir et me dit, écoute, est-ce que c'est possible qu'un de ces étudiants-là me peigne, moi, grandeur nature, sur ce mur-là, dans son œuvre? Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, je voudrais être là quand le bulldozer va venir. Ouais. Alors, je lui ai dit, écoute, c'est formidable. Il me dit, oui, je veux voir le bulldozer venir. Il dit, j'aime ma ville. Alors, il a vu un étudiant, c'est Chaban, Doran. Chaban a accepté, et chaque jour, Amir Abdelrahman venait poser. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les gamins, après, venaient, le reconnaissaient. Et il y avait toujours. Alors, et ça a ramené du monde. Et vous voyez après un vieux bonhomme avec sa petite fille qui venait. Est-ce que c'est possible que je me fasse photographier devant ce mur, etc., etc. Bon, il y avait plein de choses qui se passaient comme ça. C'était terrible. Même des marchands de merguez, des marchands de limonade, comment on appelle ça, de sherbet, comment on appelle, de sorbet, qui venaient demander aux étudiants, est-ce qu'ils peuvent me décorer ma carriole? Et alors, ça se faisait. Et après, tous les jours, ils leur amenaient à boire pour rien, etc. Puis bon, il y avait toute une ambiance qui était fantastique. Ça gênait un petit peu les autorités, tout ça. Qui avait pourtant aidé financièrement la chose. Mais il y avait des choses qui ne se disaient pas non plus. Bon, il y avait des visages partout sur ces murs. Des fenêtres qui étaient apparues, des têtes, des cris, etc. Bon, ce travail terminé, les étudiants retournent à l'atelier, frustrés de ne pas pouvoir continuer. Quelques jours après, qu'est-ce qui se passe clandestinement dans la nuit? C'était les années 86, c'était la montée de l'intégrisme qui était en train de se naître. Des pinceaux sont venus effacer tous les visages. Il y a eu une intervention, une contestation souterraine qui était en essence et qui est venue effacer tout ce qui était visage, tout ce qui avait allure. C'était terrible. Bon, j'ai photographié tout ça, l'évolution des choses. Comment que justement tout ça pouvait vivre? L'œuvre a continué à vivre. C'est-à-dire, il y a eu, disons, deux publics qui ont fréquenté le lieu. Ceux qui étaient contents, heureux, et qui ont exprimé pendant, et ceux qui après sont venus après pour aussi donner leur point de vue avec des pinceaux larges. Cette action-là a ensuite amené à ce que l'école, nos ateliers soient invités soit dans le sud pour intervenir dans les zones pétrolières pour nous avons mené des actions différentes, soit sur des pipelines en pleine nature, etc., etc. Nous avons même là aussi du côté d'Inaménas fait une action sur une maison des jeunes, sur les murs extérieurs, dans un lieu complètement vide, les gens n'avaient rien, et Là aussi, le public a profité de quelque chose, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, c'est le sous-préfet local qui n'a pas aimé tout ça et qui a fait peindre tous les murs en blanc. L'année suivante, pareil, à l'université de Soumaïa Blida, un institut en construction, plusieurs instituts en construction, ont fait appel à nous pour prendre en place, pour prendre en charge une vingtaine de murs extérieurs de l'institut. Les étudiants se donnent à fond. Liberté, pas de maquette, etc. C'était la règle. Un mois après, un responsable du parti unique a décidé que tout ça, ça n'allait pas, sous prétexte qu'il y avait une peinture qui, selon lui, portait atteinte au président de la République. Bon, une autre peinture où il avait décelé des revendications berbéristes, etc., etc. Vous voyez bon, tous ces intégrismes, cette violence, et même, je veux dire que tout ça, pouvait même aller jusqu'à peut-être vous mettre en danger. Parce que, en tant qu'artiste, à la fois pédagogue et créateur, ayant des positions dans la vie publique, pour telle ou telle raison, par exemple, s'il y a un ami qui a été emprisonné, nous participons à des mouvements ou autre chose. C'est-à-dire que, en fin de compte, ne sont abattus par la soi-disant main intégriste que les personnes qui ont eu des problèmes avec le pouvoir. Et ça, c'est bizarre. C'est-à-dire que c'est lui qui indique la cible. Alors, c'est pour ça que je veux dire que, bon, le problème d'intégrisme a ses sources. On ne veut pas de l'idée d'ouverture, des choses qui doivent évoluer. On préfère le silence, ce qui ne remet pas en cause, ce qui ne remet rien en cause. Voilà. Et j'ai encore beaucoup de choses à dire, vous savez. Voilà. Je regrette de ne pas être là-bas.
Merci Denis Martinez pour ce témoignage. Et donc je donne maintenant la parole à la salle pour les questions que le public voudrait vous poser. Est-ce qu'on peut vous passer le micro? Attendez.
Je voudrais savoir, parce que je crois avoir senti bien sûr l'inquiétude, en tant que, non seulement l'inquiétude, mais je dirais la douleur qui est celle de nos deux interlocuteurs du fait d'avoir quitté l'Algérie et surtout les occupations, enfin les préoccupations à la fois en tant qu'artiste et aussi d'enseignant que vous pouviez être. Donc, et de savoir en fait, en l'état actuel des choses et compte tenu de la situation actuelle de l'Algérie, qu'en est-il de ce patrimoine en même temps que de cet enseignement? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Sait-on où se trouvent ces jeunes artistes avec qui vous avez eu affaire en tant qu'enseignant? Qu'en est-il de ce patrimoine artistique, qu'il soit peinture, sculpture, voire même l'école des architectes qui était extrêmement brillante à Alger? Où sont-ils? Et est-ce que l'on peut espérer qu'il y ait, malgré tout, comme dans un temps de crise qui est un temps de guerre, comme nous avons connu quelques 50 ans avant, de la protection, par exemple, des œuvres et du patrimoine? Avez-vous des informations à ce sujet? Et bien entendu, de s'informer surtout sur, à la fois, peut-être avez-vous des idées sur l'avenir de l'Algérie, je n'en sais rien. Peut-on faire encore des plans sur la comète? Qu'est-ce qui va se passer? Et en outre, qu'en est-il de la situation, de l'avenir à court terme, à moyen terme, de ces jeunes ou des autres de vos amis et en même temps confrères qui sont restés là-bas? À la fois préoccupations sur les personnes et préoccupations sur leurs œuvres.
Bon. Je vais essayer d'amener quelques petites réponses. D'abord, bon, aussi là aussi une vérité. Je vous parlais par exemple du Musée national des beaux-arts d'Alger. qui était sous la direction de Madame Malika Bouabdallah, qui actuellement, malheureusement, se trouve à Paris, pour des raisons de sécurité aussi. Avant mon départ, je suis passé la voir, parce que bon, j'avais peur pour mes peintures, pour mon travail qui se trouvait à Blida, et je lui ai dit, bon, est-ce que ce serait possible de déposer tout mon travail dans le musée avant de partir comme ça? Elle me dit non, je ne le conseille pas, elles sont plus en sécurité chez toi que dans le musée. Voilà. Alors, bon, et là, il y a peut-être un mois ou il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'elle était à Paris. Et avant de partir, elle avait demandé au ministère de la Culture de faire quelque chose, de préparer quelque chose pour la protection du musée. On a complètement laissé tomber. Alors, ce qu'elle essaye maintenant, elle est là, elle essaye de voir peut-être avec l'UNESCO faire quelque chose, mais vous savez, on s'en fout complètement. Le pouvoir s'en fout. Il s'est toujours foutu de la culture, ça dérange. Ce n'est pas un problème pour lui. Ce qui est intéressant pour lui, c'est de rester en place et de faire son affaire, c'est tout. Mais le problème des peintures, c'est quoi une peinture, une sculpture? Ça peut disparaître, ça peut foutre le camp. Vous savez, les arrivistes n'ont pas de culture. Hein? Ce qu'on appelle, nous, c'est la culture du fric. C'est ça le gros problème. Bon, maintenant, pour vous parler de tous ces jeunes artistes, oui, alors, il y en a qui essayent de sortir. C'est pas facile. Parce que, bon, il ne suffit pas de sortir comme ça. Il faut aussi pouvoir exister. Il y en a qui sont sur le terrain et qui essayent de faire quelque chose et qui savent qu'ils sont en danger. Il y en a qui ont pris la relève à l'école. Voilà.
Si j'ai bien compris,
je pense à eux.
Oui. Si j'ai bien compris, autant les artistes que leurs œuvres sont rentrés dans la clandestinité.
Ils sont presque obligés d'être. Ouais. C'est-à-dire que là, même avant de venir, enfin, mois de décembre, moi, ouais. je ne vivais plus chez moi.
Tu comprends. Très bien. Hein?
Qui demande la parole?
Je profite de
ce oui,
petit silence pour parler un petit peu de la toile et de Kateb et d'Ishiakem. D'abord, cette toile, elle a été composée en 1985, c'est-à-dire deux mois avant la mort du peintre. Je crois qu'il y a l'atmosphère chromatique donne déjà cette idée de l'étendue, hein, et de la mort qui n'est pas loin. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce tableau, c'est d'une part le poème de Kateb Yassin. C'est un poème qui a l'âge poétique de Kateb Yassin. C'est un poème qu'il a constamment modifié, travaillé, mais travaillé pas systématiquement, pas pour en faire une œuvre poétique, mais il changeait constamment les vers, il ajoutait. Quand Ishiakem, qui avait un cancer des os, qui souffrait terriblement, mais qui avait une capacité de résistance absolument inouïe, vraiment inouïe, parce que il a continué à boire, à fumer, à gueuler, à se révolter, alors qu'il pesait 45 kilos et il flottait dans des vêtements, mais qui a gardé une énergie qui mettait dans l'embarras la faculté de médecine. Les médecins que je voyais, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce fou? Il ne mourra pas. Et c'est ce qu'il disait, Ishiakem. Il dit, non, mais ce n'est pas un cancer qui va me terrasser. Et donc, ils ont travaillé ensemble. Et Kateb, en fait, avait achevé ce poème en 1980, quand sa mère est morte. Et c'est donc la version définitive qui est calligraphiée ici. C'est un poème d'une, puissance extraordinaire et qui sera constamment d'actualité, en fait. C'est ça le... alors, ce que je voulais dire, c'est que quand Kateb est mort, il est mort le 28 octobre 1989. Moi, je revenais de Moscou, et donc j'ai appris le matin sa mort. Il venait de mourir, j'ai appris une demi-heure après. Il est mort à l'hôpital de Grenoble. Donc, je suis allé tout de suite à Grenoble. Et le lendemain, 29, il y a un tremblement de terre en Algérie, terrible, dans les environs d'Alger. Et le même soir, l'imam Mohamed El-Ghazali, donc le grand imam d'Algérie, prononce l'anathème contre Kateb Yassine, qui venait de mourir. Alors, il n'est pas musulman et qui ne sera pas enterré dans un cimetière musulman. Et alors moi, j'ai eu à la fois une envie de hurler de rire et de révolte. Pourquoi de rire? Je dis, bon, parce que Kateb, s'il n'est pas considéré comme musulman, il n'est pas juif non plus, il n'est pas chrétien, il n'est pas vishnouiste, il n'est pas animiste. Donc, où est-ce qu'on va l'enterrer? Puis alors, je me suis mis à rire, je me dis, parce que là, peut-être que l'imam Razali a rendu un service à Kateb Yassine, peut-être qu'il sera possible d'enterrer Kateb directement dans le ciel. C'est ce que je me disais, bon, j'étais un petit peu... on va l'enterrer dans le ciel, dans un no man's land absolu, c'est-à-dire pas sur terre, puisque aucun cimetière ne peut l'accepter. Il n'est pas israélite, il n'est pas chrétien, donc on va l'enterrer. Et donc cet anathème, hein, c'est 1989, déjà, annonce des choses. Là, c'est un anathème post-mortem, mais après, c'est des condamnations à mort réelles et exécutoires et exécutées. Alors, pour Issy Hakem, il y avait de grandes fresques dans la maison du peuple qu'il avait faites. Et en 1991, elles ont été repeintes. Comme ça, les grandes fresques. Tous les murs de la maison du peuple étaient peintes par Issy Hakem. Et en 91, ils sont venus repeindre. Ils ont remis à neuf. Et donc, ils ont complètement... ils ont effacé les œuvres d'Issy Hakem. Donc, vous voyez que les choses sont présentes. Les choses coercitives, radicales. Elles préparent le terrorisme ultime. Ah, il y a des choses comme ça qui annoncent. Voilà, donc pour ce tableau, moi j'en ai hérité, c'est le seul héritage que j'ai de mes amis. Je suis à la fois heureux et fier d'être le dépositaire d'une œuvre unique. D'une œuvre unique parce qu'elle est signée Kateb Yassine. Et là j'ai vu aussi un signe de générosité chez Issy Hakem qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il, finalement, il accepte de confondre sa filiation avec celle de son ami. Il retire son nom et il le met dans le nom de son ami qui survit. Et donc c'est Kateb qui signe. Il signe et le poème et la toile. Et là, il y a tout un jeu de ce que j'appelle l'alliance substantielle. Mais en fait, le mot n'est pas de moi, il est de René Char. Je l'ai vu au sens complet du terme, cette alliance qui se fait même dans le non-dit, dans la complicité extraordinaire. Issy Hakem sait que c'est terminé, et c'est une de ses dernières œuvres. C'est une de ses dernières œuvres. Alors, tellement qu'il est tenace, il est mort un pinceau à la main. Il s'est effondré, il est en train de peindre une très très grande toile d'un bleu pâle terrible, un petit peu linceul, et il est tombé, il peignait assis évidemment, parce qu'il ne tenait plus debout, et il est tombé, puis il est mort, il n'a plus repris connaissance. C'était quelqu'un d'une énergie qui a passé sa vie sa vie à peindre, à, et surtout à vivre. À vivre. C'est, j'ai jamais vu des gens comme lui et Kateb vivre l'insomnie comme ça, c'est-à-dire 3-4 nuits de suite, de façon à boire et à fumer, à gueuler. Une anecdote, au mois de juin 1985, donc quelques mois avant sa mort, il était à Villejuif, ici à Caen, en train de faire une chimio. C'était des chimios terribles, c'est-à-dire fortement dosées, à sa demande, enfin, avec son accord. C'est-à-dire que le médecin qui le traitait lui dit, bon, on va essayer, mais on te bombarde. Vraiment, c'est... Bon, il dit, faut se battre. Et je vais le voir, il avait fait la chimio le matin. Et vous savez, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais moi je sais maintenant, après une chimio, on est dans un état terrible, terrible. Et l'infirmière me dit, vous savez, il a fait sa chimio ce matin, il n'est vraiment pas visible. Je dis, non, mais ça ne fait rien, moi j'arrive d'Alger, je veux le voir, je ne peux pas rester longtemps. Je monte, c'était au 7e étage, je rentre dans sa chambre, et puis effectivement, je vois une espèce d'être comme ça, complètement roulé sur lui-même. Et il a entendu du bruit, puis, bon, évidemment, plus de cheveux, plus de dents. Et regarde, comme ça, il coulait de partout. Puis il reprend vie. La première chose qu'il me dit, il dit, passe-moi une gauloise. C'est comme terrible, quoi, d'être dans... Tout simplement pour dire, je suis vivant, enfin, ne déconne pas, ne crois pas que les choses sont faciles. Comme ça. Je suis vivant, passe-moi une gauloise. Voilà un petit peu ce qu'était le personnage. C'était des personnages de la tension. De la tension permanente. Alors, c'est des êtres un petit peu... décrit par Hölderlin ou par Antonin Artaud. C'est des gens qui vivaient à la fois dans un champ magnétique, mais traversé par le courant électrique, et les pieds sur la braise. C'est comme ça. Ils étaient gênants. Ils étaient gênants. Ils ont gêné tout le monde. Quoi. Ils ont gêné tout le monde, mais ils ont laissé des choses qui survivront à tous les barbares et à tous les tueurs. Et je crois que c'est ça le
message.
Le message.
Madame.
Une précision, s'il vous plaît. Vous-même, vous avez entrepris un travail, j'irais, d'inventaire ou de recherche sur ces artistes que l'on pouvait en dire en marge de cette assignation à l'école des autochtones où on les cantonnait dans l'univers de la miniature, etc. Vous avez fait des recherches, vous avez cité un des artistes qui était en marge et qui avait une ambition évidemment artistique plus large, à vocation universelle. Et je voulais savoir si ce travail, alors l'état actuel des choses, est-ce que vous pouvez le continuer ou bien là aussi c'est pareil, il y a une béance qui reste. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle?
Oui. Bon, évidemment, j'ai fait un travail de recensement, à travailler dans les archives, à exhumer des revues, des journaux, parce qu'il n'y a rien. Donc il faut, c'est un travail très dur. Il n'y a aucun repère. Donc il faut systématiquement dépouiller toutes les revues, tous les journaux, entre 1910 et, disons, 1940. À partir de 40, on connaît les personnages parce que la plupart d'entre eux sont vivants. Mais les morts, il faut les faire revivre en dépoussiérant les revues. Donc j'ai travaillé sur toute une série de journaux, de revues. Donc j'ai pu reconstituer des biographies assez sommaires, mais que l'on peut exploiter. Le plus difficile, c'est l'iconographie. C'est l'iconographie. Là, bon, certains ont laissé des œuvres à des parents ou musées, les retrouvent, mais elles sont dans les réserves. Donc, bon, il faut aller dans les musées, il faut se le fais avec plaisir, évidemment. Mais là aussi, il n'y a pas de... Très souvent, les musées n'ont pas répertorié, il n'y a pas de catalogue. Ça s'est fait depuis, avec Malika, avec, ils ont commencé à faire un travail quand même systématique de recensement, d'identification, etc. Mais c'est que la plupart des archives ont été détruites en 62, et puis des œuvres ont été prises également par, et que l'on peut retrouver, mais là il faut faire tous les musées de France et de Navarre, puis voler, enfin d'autres voler. Il y a eu donc des transferts entre mars et juillet 62, mais il y a eu aussi des vols. Il y a eu des vols, donc des gens ont volé. Moi, j'ai vu chez des gens des tableaux absolument extraordinaires, mais qui ont été volés. Bon, là, je ne peux plus le faire. C'est un travail que je ne peux plus faire. Donc, j'ai des notes que j'exploite un petit peu, mais malheureusement, il faut continuer. Enfin, je ne peux plus. L'année prochaine, quand les barbares seront boutés du sol, on reprendra le travail.
C'est le mot de la fin. Je remercie donc les deux orateurs pour cette conférence dont vous avez vu le caractère un peu exceptionnel.